France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Auteur dramatique et romancier, complice de travail de la metteuse en scène Lorraine de Sagazan, il sort son quatrième roman, Perpétuité. Guillaume Poix sera mon invité à partir de 13h. Mais dans la première partie des midis, vous le savez, on critique et on aime ça. Aujourd'hui, deux expositions parisiennes où le noir est couleur de lumière, comme le disait Barbara. Soulage, une autre lumière, peinture sur papier au musée du Luxembourg. Et Rick Owens, Temple of Love au palais Galliera. Vous écoutez les midis de culture, il était temps. Et pour parler modes et peintures, aujourd'hui, Joseph Gosne, directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro, bonjour.
Bonjour Marie.
Philippe Azoury, journaliste, critique et auteur, bonjour.
Ça commence bien, merci Marie. Bonjour.
Bienvenue à tous les deux.
J'ai utilisé un pigment inattendu qui est c'est le bon de noix. Parce que ça me plaisait comme couleur, je trouvais que ça avait une sonorité, c'était un noir profond, ouais. Il y a quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et par ailleurs, je connaissais cette couleur-là parce que je l'avais vue employée par des menuisiers qui teignaient le bois, qui donnaient une couleur au bois avec cette couleur-là.
Le peintre Pierre Soulages qui parlait de la sonorité du brou de noix. Je ne sais pas si Joseph ou Philippe, vous l'avez entendu en découvrant cette exposition au musée du Luxembourg. Vous me direz dans un instant. Intitulée « Soulages, une autre lumière, peinture sur papier », elle donne toute sa place à cette technique qui consistait pour Soulages à appliquer du brou de noix à la brosse, notamment sur papier, à ses débuts, c'est-à-dire avant de passer à la peinture sur toile et à ses outres noires qui l'ont rendu mondialement célèbre. Mais le travail sur papier restera présent tout au long de sa carrière. Il expérimentera ainsi l'encre de Chine, le fusain, la gouache. Et ses quelques 135 œuvres, pour beaucoup issues du musée Soulages de Rodez, sont presque toutes montrées pour la première fois. On commence avec un avis en quelques mots, Joseph Gosne.
Moi j'étais assez ému par ce que j'ai vu, c'est-à-dire la chronologie d'un travail. J'ai vraiment vu quelqu'un au travail avec à la fois des obsessions, une évolution évidemment, et surtout le dépassement de l'idée qu'on a de Soulages, c'est-à-dire ce peintre habillé en noir et qui peint du noir.
Philippe Azoury.
Qui s'habille en bleu aujourd'hui, comme Joseph d'ailleurs.
Et moi aussi, on est tous en bleu. Ouais, tout le monde s'en fiche.
Alors, tout en noir. Nous sommes à Soulages. Sans doute pour soulager quelque chose de ça. Non, mais évidemment, la question, c'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien. C'est littéralement génial. Mais ce qu'on apprend finalement, un Soulages peut-être à taille humaine. Pour qui, bon, je sais pas, par exemple, les dernières fois que j'avais vu des très très grands Soulages, c'était au musée Fabre à Montpellier. C'est souvent, voilà, c'est des monolithes noirs de taille gigantesque qui coupent le discours, d'ailleurs qui cherchent à l'effacer. Et là, comme le disait Joseph, justement, la chronologie, voir Soulages s'approcher du noir, ça lui prend 30 ans, 40 ans, pourquoi? La taille des tableaux, la façon, les rythmes qui s'inventent en étant juxtaposés l'un à côté de l'autre parce qu'ils sont plus accrochés comme ça par le sol, mais cette fois-ci sur des cimaises. Bah oui, ça donne un Soulages à taille humaine et c'est très très intéressant pour l'amateur d'art, pour l'historien, pour qui que ce soit qui veut s'approcher de Soulages par une faille enfin.
Alors, on est en train de parler finalement de la façon dont tout ça est mis en image, mis en scène. On va parler du commissariat, donc d'Alfred Paquement. Joseph Gosne, quand vous disiez, vous aviez l'impression de voir Soulages au travail, c'est-à-dire son évolution artistique.
C'est annoncé dès le départ. C'est-à-dire que l'exposition, elle commence quasiment quand il est encore étudiant. Et puis on le voit progresser au fil des années. Ça commence, il y a une première salle. Enfin, c'est pas exactement la première salle, mais il y a une première salle qui est impressionnante après le début, qui est la salle où il n'y a que des œuvres de 1947, où on voit ce qu'il cherche. On voit vraiment qu'il est à la recherche. Il y a des traits, tout a l'air un peu sur le même mode quand on regarde ça comme ça en passant. Mais quand on scrute chaque feuille, parce que c'est de la feuille, on voit qu'il est dans une énergie, une jeunesse, une recherche. Il y a, on voit le geste. Et ça, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que comme le disait Philippe, d'un coup, on ne voit plus le monolithe, on ne voit plus ce monolithe vraiment qui vous surplombe, et on est au contraire dans son geste. Et juste après, ce qui est impressionnant, c'est qu'on l'entend. Il y a une vidéo de lui, il y a une interview de lui où il dit à un moment, j'ai réalisé ce que je devais faire. Et ensuite, on peut se promener à travers, on a l'impression d'être quasiment dans son geste, même plus dans son geste que dans sa tête, et on voit les choses évoluer. On voit comment d'un coup il commence à placer davantage de noir, comment il utilise ses techniques, le brou de noir, effectivement, et puis il y a des petites choses qui s'intègrent. Et comment tout ça commence à faire sens sur la longueur. Et aussi, moi, ce qui m'a impressionné, c'est ce que j'y vois rétrospectivement, mais moi vraiment en tant que spectateur. Et d'un coup, je me dis, ah mais oui, mais ça m'évoque ceci qui arrivera 40 ans plus tard, et ça m'évoque cela qui arrive 20 ans, etc. Et ça, c'est du modernisme, mais c'est du modernisme qui est mixé avec de l'art africain. C'est marrant, j'ai l'impression de voir ce qu'il voit. Et ça, c'est vraiment un des grands effets de Soulages, qui a toujours mis, enfin en tout cas, il l'a dit, il le dit souvent, qu'il y a le support, il y a son geste, et il y a aussi le spectateur. Et le spectateur fait beaucoup dans le travail. Et là, j'ai l'impression de l'avoir vraiment perçu.
Mm-hmm. Philippe Azoury, mm-hmm. Je vous laisse réagir.
Non, c'est intéressant. On s'est pas du tout concerté avec Joseph. On respecte la règle. Personne se dit rien. Mais c'est vrai que je suis intéressé par le fait que Joseph, comme moi, a été frappé par cet entretien, qui est un entretien avec Pierre Dumayet, je crois, qui est une archive INA, voilà, qui doit dater fin des années 60, tout le monde fume sur le plateau. Soulages fume, Pierre Dumayet fume, il y en a un qui fume la pipe, l'autre la clope. Mais c'est toujours le parent pauvre, en fait, ce type d'archives, comme ça, dans les expos, on les met souvent, enfin, un peu au fond, dans un coin, dans un angle mort. Là, c'est au tournant, réellement, de l'exposition. C'est fascinant, parce que c'est une archive qui dure 4-5 minutes, qui est fascinante à écouter. Elle est claire. C'est toujours très difficile, c'est un mot, c'est un signifiant qui est très fort comme ça chez Soulages. Mais elle éclaire réellement le reste de l'exposition. Et Soulages, il raconte justement ce que Pierre Dumayet lui parle d'une vocation. Et il écarte tout de suite la connotation religieuse, même si, effectivement, la vocation de la peinture, il l'aurait eu à Sainte-Foy-de-Conques, l'abbaye qui est près de Rodez, alors qu'il était enfant lors d'une sortie scolaire. Rodez, c'est là où il vient, chez lui. Mais il parle précisément de quelque chose qui vient du dedans. Qui vient, c'est-à-dire que ce noir est éclairé par un désir qui est intérieur. C'est pas le ciel, fut-il habité ou vide, ça n'a rien à voir. Tout doit venir d'une sorte d'intériorité. D'ailleurs, il dit un moment comme ça, oui, c'est une auto-vocation. Alors c'est peut-être une auto-vocation. ce qui est assez drôle, on sent qu'ils patinent tous les deux. Mais l'erreur de Dumayet est géniale parce qu'en 5 minutes, on arrive à nous amener justement en dehors de tout ce qui pourrait être de l'ordre de la, enfin, du malentendu concernant Soulages. Et surtout, on comprend pourquoi ça lui prend à partir de là, parce qu'on est le début de l'expo, c'est 46, ça va jusqu'à 2002. Il faut attendre les années 70 pour qu'il y ait des monochromes noirs. Pour l'instant, c'est une lutte entre le noir et le blanc, et pendant les premières années, on sent le pinceau. Mmh. On sent la main. C'est beau, hein, d'ailleurs. Pour nous, c'est magnifique. Mais pour lui, c'était terrible. C'est-à-dire qu'il a passé 30 ans à ce qu'on ne sente plus la main, à ce que le noir advienne, enfin, comme un miracle ou comme une apparition sur le tableau. C'est le même fantasme chez Picasso, dans le Mystère Picasso qu'on voit dessiner. C'est le même fantasme chez Hockney récemment, où on voyait sur les tablettes le dessin transfert. C'est-à-dire que le trait viendrait naturellement se poser sans que la main ait à passer par là. Et comment faire oublier la main? Comment effacer la main pour laisser quelque chose qui est une couleur, mais qui est une couleur qui va se jouer sans le peintre, qui va se jouer avec la lumière extérieure, avec la nôtre, avec le regard qu'on y met, avec la façon dont ça va être accroché. C'est tout le combat. Et ça prend, pour arriver à oser faire un tableau noir, ça semble ridicule dit comme ça, mais c'est l'aventure d'une vie, ça lui prend 40 ans. Et dans ces 40 ans-là, on voit à la fois on voit le blanc et le noir lutter, se marier, on voit des rythmes. Ça, c'est quand même incroyable.
Il y a une vraie rythmique à la fois dans les tableaux et ensuite dans l'exposition. C'est-à-dire tout est vraiment. Moi, ce qui m'a frappé vraiment dès le départ, c'est l'énergie qu'on sent dans son trait, alors que c'est quelqu'un qui plus tard dira moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la façon dont on regarde. Il ne parle plus de son trait. On lui dit j'utilise des outils. Il y a beaucoup ça chez lui, l'outil, etc. Mais ce qu'on sent, ce qui est assez fort, c'est ce geste, cette force. On a l'impression qu'il a quasiment un énervement dans ses premiers dessins. Enfin, je dis dessin, mais c'est
peintures. Physique.
Ouais. C'est physique. Il y a quelque chose de physique. Et petit à petit, ce physique, comme le dit Philippe, tourne à quelque chose d'autre et ça devient effectivement quelque chose d'intérieur. Et on est pris par ça. Dans ce que j'ai noté, j'ai noté vraiment le mot vertige. À un moment, à force de tourner dans cette exposition-là, à force d'être dans ce déroulé avec lui rapide, c'est on traverse 60 ans d'une vie et d'une œuvre. c'est vertigineux. À la fin, vous ne savez plus comment regarder, vous ne savez plus quoi regarder. Et vous vous laissez juste prendre par ça, en vous disant, ah tiens, c'est étrange, cette toile que j'ai en train de regarder, qui date de 2002, je l'ai vue en 1972.
Alors, et c'est pas la même.
Et c'est pas la même. Et ça, c'est incroyable.
Ça, c'est important, ce que vous expliquez, c'est que c'est dessins comme vous, pardon, Joseph, en tout cas, sur papier, il a continué à utiliser le papier, même une fois qu'il avait trouvé son noir, son outre noir.
Oui.
Philippe.
Oui, c'est ça qui est passionnant, parce que donc, ça couvre, hein, voilà, tout le travail papier. Enfin, en tout cas, il y a un catalogue raisonné qui, à partir de l'exposition, a initié le désir chez sa veuve de faire un catalogue raisonné de tout ce travail sur papier. Pensant c'est 46-2002, a priori, il aurait arrêté le travail sur papier après 2002, mais c'est que Soulages ne faisait pas de dessins préparatoires, d'esquisses. Se lancer là. C'est-à-dire que finalement, cette œuvre papier, conservée, puisqu'on sait qu'il brûlait beaucoup, dès que c'était insatisfait, et y compris des très très grands tableaux, hein, des choses à Sète ou à Paris, qui sont partis dans un four créé exprès. Enfin, l'atelier est toujours construit avec un four pour pouvoir vraiment mais se débarrasser de tout ce qui lui faisait honte ou quoi que ce soit. Ça a été gardé, ce qui veut dire qu'il voit là à la fois l'effet d'une progression, il n'y a pas que l'effacement, et il y a la constitution, effectivement, d'un rapport avec la surface et le et la trace. Et là-dessus, c'est toute sa dialectique qui se met en marche. Et puis, il y a la découverte de cette technique, donc on en a parlé là, le brou de noir.
Le brou de noir.
Pas le brou, pas le brou du noir. c'est un morceau de résine, enfin, qu'on fait bouillir pour obtenir un jus pâteux et une matière qui est pas de la peinture, mais qui peut se substituer à de la peinture, qui peut tirer vers le marron.
Et qui peut être transparent.
Mais effectivement, le marron qui s'intercale dans le noir. Ouais. Et puis, tout à coup, ça vire. Et on ne sait plus. Est-ce que c'est le papier qui est comme ça? Est-ce que ce papier marouflé, est-ce qu'il a jauni? Est-ce qu'il vieillit? Qu'est-ce qui se passe avec cette matière-là? Comme le disait Philippe, il y a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que effectivement, il brûlait des choses. Et je me souviens d'un papier que nous avions publié en 2019 dans un journal dans lequel nous travaillions, en partenariat avec France Culture, pour un entretien. Il y avait Éric de Chassé et Arnaud Laporte qui avaient réalisé l'entretien, et ils racontaient qu'ils arrivent dans l'atelier et il y a quelqu'un qui est chargé de détruire, de brûler. Et donc on se dit que ce qui est resté là, c'est un choix. Il y a quelque chose chez lui de cet ordre-là. C'est-à-dire, tout ce qui est là est montré parce que c'est resté, c'est demeuré vivant. Et effectivement, on sent cette vie-là. Et on sent le rythme, on sent la séquence, mais la séquence qui traverse les années.
Le travail au fusain de Soulages, qu'est-ce que ça donne, Philippe Azoury?
Une rythmique, là aussi.
C'est du rythme.
Ouais. Ouais, c'est du rythme. Ce qu'il va trouver après, avec les grands monolithes noirs qui sont striés, il le trouve là encore avec, pour l'instant, en essayant la matière, en essayant de contrôler ou de ne pas contrôler. Mais le rythme, c'est vraiment la grande découverte. Enfin, je sais pas, pour moi, autant le silence était la grande découverte pour toute ma génération, lorsqu'on a commencé à voir des très grands Soulages. Bon, c'était notamment au Musée Fabre à Montpellier. Mais là, quand je dis que c'est plus le silence, c'est que ça grouille. Ça, c'est pas étonnant. Enfin, Alfred Pacman, qui était déjà le curateur de la grande expo au Louvre et aussi le curateur, souvent été le curateur des grandes expositions autour d'Henri Michaud, et c'est quand même à Michaud aussi qu'on parle, c'est-à-dire qu'on pense, alors que les deux, même s'ils ont travaillé l'encre de Chine, travaillaient dans des voies différentes, mais les deux travaillaient l'intérieur et ça grouille de la même manière, ça fait du bruit.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que il est mort il y a 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on montre là, ce n'est pas non plus le gigantisme. Parce qu'on pourrait se contenter de la dernière grande exposition au Louvre, des dernières grandes toiles qu'il peignait par terre. Donc on pourrait se contenter de ce gigantisme-là et de rester sur cette image de ce peintre qui vend d'ailleurs à des millions. Non, là on revient à quelque chose de plus humain, à une histoire, à un vrai récit, avec aussi un regard qui est critique. Parce qu'en fait, en voyant tout ça, on comprend un peu mieux son travail, on rentre un peu mieux dans sa pensée et dans son geste. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment intéressant de le découvrir, de le redécouvrir sous cet angle.
Soulages, une autre lumière, peinture sur papier, c'est jusqu'au 11 janvier 2026 au Musée du Luxembourg. Nous avons parlé donc du commissariat d'Alfred Pacman et le catalogue apparu aux éditions RMN Grand Palais au prix de 45 euros. Temple of love, cry like rain. Bon, il y a des amateurs, des Sisters of Mercy, ici, Temple of Love. 1983. Bon, Temple of Love, c'est aussi le titre choisi par Rick Owens pour son exposition au Palais Galliera, une exposition totale qui s'étend jusqu'au jardin du musée, jusque dans la chambre à coucher du créateur de mode américain. Rick Owens retrace son parcours de ses débuts à Los Angeles, après des études du côté technique de la mode, jusqu'à ses défilés les plus transgressifs. Au fil des salles, on retrouve son goût du sacré, de l'impur, du gothique, du minimalisme, du cuir, de la lumière, et son amour pour sa femme, Michelle Lamy, artiste, performeuse et partenaire au long cours d'Owens. Elle trône en majesté sur l'affiche de l'exposition au Palais Galliera, dans un noir et blanc semblant tout droit sorti d'un film de Fritz Lang. Quelques mots d'abord, Philippe Azoury.
Oui, moi, l'expo, enfin, à la fois m'a envapé pour prendre un mot.
Envapé.
Ouais, pour prendre un verbe fin de siècle. Vous verrez qu'on en parlera beaucoup du fin de siècle et du décadentisme tout au long de ces 10 prochaines minutes. L'expo, à la fois, m'a envapé, elle me divise parce que c'est une tentative de présentation à qui ne le connaîtrait pas de l'univers de Rick Owens. Cette présentation est très très belle, on apprend des choses qui sont assez touchantes. Là aussi, on a un Rick Owens moins effrayant, moins terrifiant, plus à dimension humaine, avec un parcours. Et en même temps, c'est Rick Owens tel qu'il se voit ou tel qu'il se fantasme aujourd'hui, en sorte de désesseinte huismanien, on dira. Là aussi, on précisera peut-être un peu plus tard. Et avec parfois quand même un soupçon de naïveté.
Joseph Gosne.
Comme l'idée tout à l'heure, Philippe, à propos de Soulages, je dirais qu'on n'est pas là pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Par contre, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, comme que c'est génial, comme les choses se présentent. Par contre, il y a plusieurs niveaux de lecture, j'ai l'impression. Il y a un niveau de découverte, parce que je pense que c'est quelqu'un que nous on connaît, mais qui n'est pas forcément quelqu'un de connu dans la mode. C'est quelqu'un quand même d'assez fermé, d'assez secret.
Puis la maison à 20 ans.
Enfin, et la maison à 20 ans, voilà, c'est pas non plus. Voilà. Donc il y a un premier effet de découverte, je pense, qui est intéressant. Il y a un questionnement sur qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Est-ce que c'est un objet culturel? Est-ce que la façon de montrer tout ça, est-ce que ça relève de la culture ou pas? De quoi ça relève? Il y a effectivement, comme le disait Philippe, quelque chose de la géographie, parce que c'est vraiment quelque chose en son honneur. Et puis il y a cette question là encore de qu'est-ce que ça nous fait quand on regarde ça et quand on se balade dans ça. Effectivement, Philippe s'est senti envapé. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça nous fait d'être face à ces créations et à cette documentation sur quelqu'un qui se situe finalement dans les un peu à part dans ce monde-là, à la fois dans le monde de la mode et par rapport à la culture.
Rick Owens, qui est donc directeur artistique de cette exposition, c'est quand même une information importante, Philippe.
Oui, mais ça va finalement avec le personnage. C'est une géographie totale et l'ego de Rick Owens en sort flatté. Mais quand je disais tout à l'heure qu'on voyait effectivement, il y avait un travail, il y avait une progression, c'est que ce qu'il y a quelque chose de touchant. D'abord, c'est un temple, un temple sombre comme il se doit, noir. Un peu comme les Soulages qu'on vous renvoyait que j'avais pu voir.
Et je disais que le noir était un petit peu présent quand même.
Accroché plutôt au plafond, c'est-à-dire que c'est une exposition qui, dans sa première salle, qui est très impressionnante, oblige à lever la tête, à aller chercher le détail. C'est pas du tout là où c'est complètement vertical, alors que le trois quarts des expositions sont horizontales. Elles montrent enfin des choses à hauteur de vue. Là, il faut rentrer dans ce qui est quand même à peu près une église, et en même temps tout en découvrant ce qui est quand même le parcours d'un garçon qui a aujourd'hui 64 ans, qui a un grand patronnier, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui travaille sur le patron, qui travaille sur les courbes, sur la coupe, et qu'on voit finalement très peu. D'ailleurs, il y a une petite vidéo.
Oui,
d'ailleurs,
il y a pas de temps.
C'est tout est à son image et tout est. Il s'approprie tout, y compris, et ça c'est génial, l'espace de Galliera, parce que pour une fois, il a connecté l'espace du palais avec l'extérieur, avec le jardin, et c'est très 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 réussi. Et je dirais peut-être même si pourquoi jusqu'à la fin, ça m'a envapé parce qu'on voit il se passe des choses dans le jardin par hasard qui donnent l'impression de continuité. Mais tout ça effectivement est quand même très nettoyé, c'est-à-dire que enfin l'essentiel, il s'en cache pas d'ailleurs, parce que si on sait lire entre les lignes, c'est mis l'essentiel de sa grande découverte, alors qu'il était patronnier pour des marques qui étaient des marques qui copiaient il y a 40 ans, enfin je veux dire en 84-85, il bossait comme apprenti patronnier pour des marques de contrefaçon à Los Angeles, et là il découvre les sex clubs, et finalement c'est toute cette esthétique, on va dire BDSM, gothique, techno dark, enfin qui fait qu'aujourd'hui les 4 heures de queue du Berghain à Berlin, le grand club berlinois, on dirait que c'est que Rick Owens les a dessinés, enfin il les a complètement jusqu'à ce noir littéralement obligatoire. Et là ça n'apparaît pas, ce qui vient, c'est que les références au rock, ça se limite, même Sisters of Mercy n'est que dans le titre, ça se limite à Bowie, Iggy Pop et Krasnomi, donc vraiment ça s'arrête là. Par contre,
et encore parce que les trois pochettes se ressemblent.
Ouais, parce que les trois pochettes se ressemblent. Et pour le reste, il y a pas de rock, il y a très très peu de références à quelque chose qui est de l'ordre du sexuel, c'est comme si en fin de compte on rentre pas avec son au musée avec sa fiole de jet ou sa muselière.
Joseph Goss, un portrait assagi, vous diriez?
Un portrait en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment il y a peu d'archives. Ils ont conservé peu d'archives de ce qui a été fait.
Donc c'est lui qui conserve.
C'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça que qu'il n'y a pas un ordre chronologique. En tout cas, on ne voit pas l'évolution des collections. On voit des collections, on voit des choses. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. Et comme Philippe l'a bien souligné, quand on rentre, on est face à ces vêtements qui sont mis en hauteur. Enfin, en tout cas, tout est comme un peu. Ça ne vous surplombe pas tellement, mais vous êtes comme ça obligé de lever le regard. Donc il y a quelque chose. Vous voyez un peu ce qu'il a fait, et en fait, vous apercevez que c'est tout ce qu'on voit est quand même plutôt récent. Mais c'est un portrait aussi par ce qu'il aime. Et ce qu'il aime, il le souligne, effectivement, il y a d'autres références rock, mais pas tant que ça, mais il souligne beaucoup Louis Mans, Gustave Moreau. Donc on est vraiment dans la période fin de siècle, et Joseph Beuys. Et Boyce est la grande référence de l'exposition.
Et Paul Virilio,
absolument. D'accord. Il y a une édite de Paul Virilio qu'on retrouve deux ou trois fois. Mais en tout cas, Boyce est une référence, et notamment cette matière
qui apparaît
que
comment Boyce, voilà, ouais.
Il y a une œuvre de Boyce, et ouais. Il y a aussi toute la matière que Boyce utilisait, le feutre, mm-hmm. que l'on retrouve dans la première salle, et surtout dans la dernière salle, qui est la salle où il reproduit sa chambre à coucher à Los Angeles avec Michel Lamy. Donc on rentre dans un univers qu'il a conçu comme si c'était un univers de Boyce, parce que Boyce recouvrait des pièces avec cette matière-là. Donc on ne sait pas si on est chez un fan de Boyce qui fait des vêtements, mais et des vêtements qui, effectivement, comme le dit Philippe, sont inspirés, ou en tout cas correspondent avec des époques, les années 90, 2000, avec tout cet aspect de techno plutôt sombre, ou si on est juste dans le cerveau de quelqu'un, et c'est juste c'est ce qu'il aime. Donc, moi, ce qui m'a arrêté dans l'exposition, c'est le manque, peut-être, d'un autre regard, ou d'autres regards. De pouvoir avoir des gens, ses pairs, par exemple, que ce soit d'autres créateurs ou des critiques de mode, etc., qui auraient pu donner une autre vision, en tout cas porter ce qu'on voit ailleurs. Parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui essaye de vous surprendre en permanence, en tout cas qui essaye de vous dire que tout ça est très très beau et très très impressionnant, notamment c'est la salle qui est la salle la salle interdite aux moins de 18 ans, qui est la salle où on voit les choses un peu plus BDSM, et où il y a cette grande statue de lui où il se pose en mannequin piece. Il y a un côté un peu, comment dire, ouais, un peu qui m'a un peu surplombé. Je me dis, tiens, c'est marrant, mais en même temps, je vois pas trop où ça m'a mené. J'ai préféré le lit. J'ai préféré voir leur lit et leur bibliothèque et leur penderie.
C'est pas si grand.
Alors que le lit est plutôt petit.
Philippe Pazon, il faut être totalement fan de Rick Owens pour accrocher ou pas?
Non, c'est très intéressant dans la manière dont il tisse à la fois le lieu, donc vraiment le palais Galliera, qui est lui-même, enfin, un espace qui est entouré d'une sorte comme ça de parfum fin de siècle, fin 19e, décadentiste, et l'entendre, parce que c'est peut-être ça qui est très important dans la première salle, on entend sa voix lire d'abord en anglais et après en français un extrait d'À rebours de Jean-Louis Mans, qui porte justement sur le Salomé de Gustave Moreau, qui est là, pas très bien éclairé, ils ont mieux éclairé les vêtements que ça. Et l'extrait, c'est quand même, tout est dit, quoi, c'est la clé, c'est « Après s'être désintéressé de l'existence contemporaine, il, c'est-à-dire des Essaintes, avait résolu de ne pas introduire dans sa cellule des larves de répugnance ou de regret. Aussi, avait-il voulu une peinture subtile, exquise, baignant dans un rêve ancien, dans une corruption antique, loin de nos mœurs, loin de nos jours. » Et c'est exactement ce qu'il fait avec ses références. C'est-à-dire que le culturel qui est convoqué, donc c'est de moins en moins le BDSM ou le métal ou la techno, mais c'est réellement toute une archéologie de ça, à partir de ce qui est vénéneux chez des décadents comme Huys Mans ou comme, je sais pas, le Sarpelladan ou Jean Lorrain ou Baudelaire, avec un passage parce qu'il vit quand même en partie à Paris depuis plus d'une vingtaine d'années, il vient de Los Angeles et d'Hollywood, avec des origines mixtec, avec vraiment ce passage par tout le début de l'Hollywood carton-pâte qui refaisait Babylone, en fait. C'est-à-dire, c'est le Cléopâtre de Cécile B. 2000, mais c'est aussi, du coup, entre les lignes, le Hollywood Babylone de Kenneth Anger, scandaleux. Le scandale est toujours entre tissé. Et on finit sur une fascination totale autour de Fritz Lang, le premier Fritz Lang, le Fritz Lang allemand, le Fritz Lang de Métropolis, c'est-à-dire gigantisme.
Ce que je disais, ça se voit sur l'affiche, ouais, totalement. Voilà, ouais. C'est
opératique et gigantesque à la fois, et en même temps, littéralement génial. Moi, là où je trouve naïf, c'est quand il essaye de se mêler de politique. C'est sa très grande vertu. Enfin, je veux dire, il est mixtec, il essaye de parler quand même aussi de l'Amérique de Trump. Le même jour, moi, où j'ai visité l'exposition, Trump déclarait qu'il n'y avait pas de... Donc, du côté que les climats, tout allait bien, il y avait pas s'en soucier, et il y a des délits de faciès qui venaient d'être ordonnés, notamment sur les latinos. Et évidemment, il est pris par ça, mais il le fait à cette façon-là, qui est toujours aussi un peu à la fois touchante et un peu hors sol. C'est-à-dire, il y a un moment où on nous dit, ah bon, oui, alors il y a moins d'empreintes carbone, et c'est de plus en plus gigantesque en même temps, et puis on nous dit, bon, il est à Venise depuis 2020, pendant la crise Covid, il réfléchit à l'après.
c'est génial en même temps. Tout dernier mot, il nous reste 20 secondes.
Ce qui est intéressant quand on le découvre, c'est qu'on se rend compte qu'il existe dans la mode des secteurs qui sont encore indépendant, et lui c'est ce qu'il est, ouais. Et on voit que par exemple, que ce soit lui ou Comme des Garçons ou une ou deux autres marques comme celle-là peuvent permettre à des choses d'exister en dehors d'un système qui lui est beaucoup plus dans le mainstream.
Rick Owens, Temple of Love, c'est jusqu'au 4 janvier au Palais Galliera sur une direction artistique de Rick Owens. Merci beaucoup Philippe Azoury et Joseph Gosse d'être venus dans les midis. Merci, aujourd'hui, vous qui nous écoutez maintenant, c'est à vous de vous faire une idée.